Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir.
Les chemins, les sentiers, dans les
disons au Seigneur merci
à chaque génération,
parce qu'il est notre force. C'est lui qui nous fait marcher dans les lieux élevés. C'est lui qui nous donne la capacité et la force nécessaire pour avancer malgré toutes les difficultés qui peuvent se présenter sur notre chemin. C'est lui le Dieu saint, le Dieu juste et bon, qui permet dans sa grâce que tu sois là ce soir. Donne-lui l'honneur qu'il mérite. Donne-lui la gloire qu'il mérite. Dieu Seigneur, ce soir encore, je veux voir ta grâce se manifester dans ma vie. Je me dispose, Seigneur, à t'écouter, à laisser que tu parles à mon cœur, que tu transformes quelque chose de négatif en moi en positif. Je veux encore, Seigneur, que tu me moules et que chaque jour je te ressemble davantage, encore et encore. Père, infiniment merci pour ce 39e jour de notre programme. Merci parce que la course n'est pas encore achevée. Mais c'est toi qui nous as soutenus jusqu'alors. Nous ne croyons pas que ce soit par nos capacités que nous avons tenu jusqu'à cet instant. Mais c'est ton bras puissant. Et nous te disons merci. Merci encore parce que ce soir, c'est toi qui as renouvelé nos forces. C'est toi qui as créé dans nos cœurs le désir de nous retrouver ici dans ta présence. Et nous voulons, Seigneur, te dire merci. Nous répondons, Seigneur, ce soir, Seigneur, nous sommes présents. Seigneur, nous voici dans ta présence. S'il te plaît, Seigneur, parle encore. Parle encore à nos cœurs. Parle encore à nos vies. Et donne-nous, Seigneur, notre Dieu, de tirer le meilleur profit de cet enseignement. Merci Saint-Esprit de Dieu d'agir et de te glorifier dans nos vies, dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Hier, nous avons terminé avec le 5e module de notre programme. Et il est question aujourd'hui de faire comme une révision et à l'issue de la révision, répondre à quelques questions qui ont été posées par certains d'entre vous. Le module 5, en réalité, qui clôturait ce programme de carême, avait pour titre « Demeure ferme ». Demeure ferme. Tout comme les autres modules, il avait 6 chapitres qui nous ont bousculés et nous ont encouragés à tenir bon dans notre engagement à oser recommencer. Le premier thème de ce module, c'était « Sois le cœur ». Sois le cœur. Dans ce chapitre, soit le cœur, il a été précisé que chacun d'entre nous doit se considérer comme le cœur dans son fonctionnement, c'est-à-dire cet organe qui impulse la vie aux autres parties du corps. Et nous nous sommes dit qu'il serait intéressant que chacun d'entre nous soit cette personne-là qui impulse la vie aux autres. Et pour ça, naturellement, il faut avoir reçu la vie, n'est-ce pas? Parce que dès l'instant où le cœur cesse de battre, la vie également s'arrête, n'est-ce pas? Parce que les organes ne sont plus alimentés, et il y a mort. La mort s'ensuit. Nous nous sommes rendus compte que pour être véritablement le cœur, il faudrait revoir ce que la Bible dit de nous. Essentiellement, deux choses ont été dites à notre sujet. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui pouvait le dire à ses disciples, n'est-ce pas? La première des choses, vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire que c'est nous qui donnons la saveur au monde. Et Dieu seul sait combien notre monde aujourd'hui est devenu fade, n'est-ce pas? Sans goût, sans saveur. Tu es cette personne que le Seigneur veut utiliser pour redonner un goût à ce monde. La deuxième des choses que le Seigneur nous a dites, c'est qu'il veut que nous soyons la lumière pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, pour dissiper, n'est-ce pas, les ténèbres qui environnent le monde. Et nous sommes tous conscients que nous vivons dans une société ténébreuse aujourd'hui où le mal prend des proportions qui nous inquiètent. La méchanceté et l'injustice deviennent des choses qui caractérisent notre société. Et Dieu veut donc des personnes qui se distinguent au milieu de cette génération pour éclairer les autres et amener les autres à la lumière qu'est Christ. Et pour ça, il est important de rester focalisé sur ce que Dieu pense de nous et sur ce que Dieu attend de nous. De rester attaché à la parole de Dieu et aux valeurs que cette parole nous communique pour demeurer des modèles pour notre société. Le deuxième thème, vint le découragement. Dans cette leçon, il nous a été démontré que le découragement n'honore pas Dieu, le Dieu saint et juste que nous servons. Même si ses promesses tardent à s'accomplir, il ne faut pas se décourager. Même si vous avez attendu longtemps une promesse de Dieu qui devait s'accomplir dans votre vie, ne vous découragez pas. Même si vos échecs, vous êtes allé d'échec en échec, il ne faut pas se décourager. Mais il faut pouvoir tirer des leçons qui s'imposent, tout en gardant à l'esprit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même quand tout semble noir, sans issue dans votre vie, Dieu n'est pas loin. Il faut tout simplement déposer votre fardeau au pied de la croix de Jésus, chercher sa face dans une relation d'intimité avec lui et attendre en silence le secours de l'Éternel. Il y a des fardeaux que nous ne pouvons pas porter. Ça va nous écraser et ça va nous tuer. Il faut déposer ces fardeaux-là au pied de la croix de Dieu, du Seigneur. Et quand on dit déposer, c'est vraiment déposer. C'est-à-dire dire à Dieu, Seigneur, telle situation me dépasse. Prends ça et tu gères. On enlève son cœur sur ça. Pour parler comme on dit souvent, n'est-ce pas? On enlève son cœur sur ça. On laisse Dieu gérer. Parce qu'il y a des choses qui sont au-delà de nos forces physiques, que seul Dieu peut gérer. Et il faut lui faire confiance, parce qu'il a la solution à toutes nos préoccupations. Le troisième thème, demeurer intègre. Nous avons remarqué que l'une des choses que nous avons besoin de faire pour ressembler à Christ, c'est d'être intègre. Jésus était quelqu'un de vrai, qui ne change pas. Il a été en accord avec... Il y avait un accord entre ses paroles et ce qu'il faisait. En lui, il n'y avait aucune ombre de variation. Et nous souvenons que dès l'entame de son ministère, il a décliné son cahier de charges et tout son ministère a été l'accomplissement de ce cahier de charges. Il a fait ce qu'il avait dit. Il était donc par conséquent vrai à l'intérieur et à l'extérieur. Et pendant l'enseignement sur l'intégrité, le Seigneur pouvait nous dire aussi qu'il veut des personnes qui soient vraies, des personnes qui ne se laissent pas corrompre, influencées par les systèmes du monde, mais des personnes qui restent fidèles à la vérité et qui proclament par leur intégrité la sainteté de Dieu et l'amour de Dieu. Dieu veut des hommes intègres. Dieu veut des hommes intègres. Et pour ça, on a besoin d'être intègres dans nos paroles. Dis des choses qui sont vraies. Dis des choses que nous faisons. Il faut que dans nos paroles et dans nos actions, il y ait un accord véritable. Et l'apôtre Paul pouvait dire à son fils Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Pour que l'enseignement que tu es en train de communiquer soit en accord avec ce que tu fais. Il n'est pas de dire aux gens, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Non. Dieu veut que nous lui ressemblions. que nous soyons en harmonie avec lui, n'est-ce pas, avec nos paroles ainsi que nos actions. Le quatrième thème, il n'est pas bon que tu sois seul. Nous nous sommes rendus compte que cette déclaration n'était pas des paroles d'homme, mais c'était une parole qui venait du Seigneur. C'est Dieu lui-même qui trouve qu'il n'est pas bon que l'homme soit. Est-ce que Dieu peut se tromper? Ça veut dire que l'autre qui est à tes côtés, ton voisin qui est assis à côté de toi là maintenant, là, a priori n'est pas ton ennemi. N'est-ce pas? Dieu a trouvé bon que cette personne soit à côté de toi. Ton époux qui te torture et qui te crève tes misères, a priori n'est pas un ennemi. Même si c'est le moment difficile que vous traversez ensemble, il est question de faire suffisamment attention et tirer des leçons des difficultés qu'on peut rencontrer avec ces personnes. C'est pas parce que l'autre est une bénédiction de Dieu que ça veut dire forcément que tout sera rose, n'est-ce pas, avec cette personne. Mais maintenant, quand il y a des différends, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir retourner à celui qui a placé cette personne là à côté de toi et dire: Seigneur, je gère comment? Je gère ce différend comment? Je gère cette difficulté comment? Et on s'est rendu compte également qu'il y a plusieurs avantages à tenir compte de l'autre qui est une bénédiction pour nous. L'autre nous procure la joie, n'est-ce pas? L'autre nous procure la joie. L'autre nous aide à être épanouis. L'autre nous aide à être plus efficace. L'autre nous aide à sortir de nos faiblesses. Et l'autre nous aide à sortir, n'est-ce pas, de l'insécurité dans laquelle est-ce que nous pouvons nous retrouver. Quand vous êtes seul, parfois à la maison, dans une grande barrière, parfois vous avez peur, n'est-ce pas? Mais dès qu'une deuxième personne arrive, comment est-ce que vous vous sentez? Soulagé, en sécurité, n'est-ce pas? Oui, l'autre à côté de nous nous procure la sécurité. Il nous procure la sécurité. Et c'est ce que Dieu veut, que nous regardions en l'autre comme quelqu'un qui peut nous aider. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut embrasser tout le monde n'importe comment, n'est-ce pas? Mais, a priori, intégrer que l'autre est une bénédiction pour moi. C'est pour cela qu'en abordant l'autre, il n'est pas question de l'aborder avec des préjugés. Vont détruire ce que Dieu veut bâtir dans notre vie avec l'autre. Il faut donc rester attaché à ce que Dieu, lui, il pense. Il faut donc que nous aimions l'autre. Peu importe la personne. Même si nous ne sommes pas d'accord avec ce que c'est, l'aimer. On n'a pas dit d'aimer son péché. On n'a pas dit d'aimer sa mauvaise vie. Mais de l'aimer, n'est-ce pas? Parce que Dieu nous a aimés quand bien nous étions encore dans la mauvaise vie, n'est-ce pas? Romains 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ nous a aimés. Il nous a aimés. Lorsque nous étions encore des pécheurs, même ceux qui vivent encore délibérément dans le péché, Dieu attend que nous associons de l'amour vis-à-vis de ces personnes-là et que nous prions pour eux, pour que ces personnes trouvent le chemin du Seigneur et se mettent au pas. Le cinquième thème, lève-toi et prie. Nous nous sommes rendus compte que si le Seigneur nous invite à nous lever, c'est parce que nous sommes dans une situation soit de stagnation, n'est-ce pas? Soit on était dans un sommeil profond, soit on était carrément assis dans le contentement, n'est-ce pas? Mais Dieu dit, lève-toi et prie. Priez parce que nous sommes appelés à éclairer les autres, à donner de l'éclat dans les vies des personnes. Et s'il y a des personnes sur qui est-ce que le Seigneur veut compter, c'est sur les chrétiens. Et la personne qui est intervenue ce soir, et quand tout va mal dans la société, ce sont les chrétiens qu'il faut blâmer, n'est-ce pas? Parce que nous n'avons pas suffisamment prié pour amener les autres à venir à la lumière de Christ. Et il est question que nous devenions ce reflet. Vous savez, quand vous êtes dans le noir et que vous voyez un point lumineux à distance, la tendance c'est quoi? Quand vous êtes égaré, c'est de vous rapprocher de ce point lumineux, n'est-ce pas? Ça veut dire que nous devons être comme ces points lumineux qui permettent aux gens de se repérer dans et qui attirent les personnes. C'est notre défi en tant que chrétien. C'est notre défi de chaque jour. Est-ce que ma vie de chaque jour qui attire les autres? et qui les aide à sortir des ténèbres dans lesquelles est-ce qu'ils sont pour venir au Seigneur. Est-ce que ma vie de chaque jour est de ces personnes qui sont noires à venir à Christ? C'est un défi de chaque jour. Mais si ton comportement et ton caractère enfoncent davantage les gens et les maintiennent dans les ténèbres, c'est que tu es un contre-témoignage. Tu n'es pas en train de faire le temps que tu fasses. Il est donc question qu'on se lève également et qu'on puisse prier. On ne se lève pas simplement, mais on se lève pour prier, pour éclairer les personnes et les amener à sortir des ténèbres. L'autre thème, et le dernier, celui que nous avons vu hier, surmonter les forces contraires. S'engager dans un processus comme celui-ci, où on veut oser recommencer, il y a beaucoup de forces qui vont s'opposer à notre avancement, n'est-ce pas? Et il faut pouvoir surmonter ces forces qui s'opposent à notre engagement à recommencer un certain nombre de choses. Que ce soit dans nos familles, on veut recommencer notre relation conjugale dans cette qui ne tenait plus. Que ce soit dans notre vie professionnelle, il y a un certain nombre de choses qu'on veut recommencer, mais il y aura des embûches. Et nous avons énuméré ces embûches en deux catégories. Ceux qui sont internes et ceux qui sont externes, n'est-ce pas? Et ceux qui sont internes, on a parlé de la peur. La peur, en fait, qui est l'opposé de la foi. La peur qui tue la foi et nous rend inopérants. Chaque fois que nous allons être des personnes craintives, chaque fois que nous allons être dans la peur, nous ne pouvons pas oser faire des choses qui transforment. Parce que la peur vient tuer ce que Dieu veut accomplir dans notre vie. Il faut que nous sortions de cette peur et que nous puissions la surmonter. Il faut également que nous surmontions le découragement. Il faut que nous surmontions l'orgueil. Parce que Dieu ne veut pas ces choses dans notre vie. Il faut que nous surmontions ces forces, n'est-ce pas, qui viennent au-dedans de nous pour tenter de nous tirer vers l'arrière, nous faire rentrer encore dans les choses que nous avons renoncées pour avancer avec le Seigneur. Mais aussi, il y a des forces qui sont extérieures. Et ces forces extérieures, c'est parfois aussi des personnes qui sont autour de nous, n'est-ce pas? On a parlé de nos coutumes, de notre culture qui peut devenir un obstacle pour nous. Les habitudes que nous avons développées dans la société, le système de pensée, le système de valeurs du monde, qui sont des obstacles qu'il faut surmonter. Parfois, on est influencé par ce que la masse a l'habitude de faire, n'est-ce pas? Quand on voit tout le monde faire une chose, on a tendance à dire, bon, si tout le monde fait ça, peut-être que c'est bien, n'est-ce pas? Mais il faut rester focalisé sur ce que Dieu dit et pouvoir avancer. Ne laissez pas que les forces de pesanteur qui veulent vous traîner vers le bas aient raison sur vous. Mais il faut tenir ferme et continuer d'avancer dans l'optique d'oser recommencer avec le Seigneur. Voilà les différents modules que nous avons abordés, les différents thèmes que nous avons abordés dans ce module qui nous aidait, n'est-ce pas, à tenir ferme ou bien à demeurer ferme. Nous allons à présent répondre à quelques questions qui ont été posées. Je vais commencer. Il y a une même personne qui a posé une série de trois questions. Première question. Est-ce que lorsqu'on a des amis ou amies, on comprend, n'est-ce pas, qui ne sont pas chrétiens ou chrétiennes, on doit systématiquement les exclure de nos fréquentations? C'est la première question. Est-ce qu'on doit exclure les amis qui ne sont pas forcément chrétiens de nos fréquentations? Une personne, c'est dans quel but? Quand on fréquente une personne, c'est dans quel but? C'est dans quel but? De l'amener à Christ. Cette personne n'est pas à Christ, n'est-ce pas? Si je suis chrétien et que j'ai quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, mon objectif premier à l'endroit de cette personne, c'est de faire comment? C'est de gagner cette personne. Si je sais que cette personne n'est pas en Christ et que je demeure avec cette personne sans toutefois l'aider à venir à Christ, c'est qu'il y a un problème. Si je ne l'aide pas, lui, il va m'aider à... N'est-ce pas? Si je ne l'aide pas à se connecter au Seigneur, lui va m'aider à descendre. Oui, il faut qu'on garde ça à l'esprit. Ma relation avec l'autre doit être dans le but de l'aider à venir au Seigneur. Nous ne pouvons pas dire aux gens que vous devez cesser de parler aux gens parce qu'ils ne sont pas des chrétiens. C'est pas ce que Jésus nous a appris. N'est-ce pas? Rappelez-vous de l'histoire avec Lazare. C'était un voleur, n'est-ce pas? Et tout le monde le détestait. Mais Jésus a choisi d'aller manger chez cette personne. Pourquoi? Dans le but de transformer la vie de Lazare. Et c'est ce qui s'est passé. De Zachée, merci. De Zachée. Et sa vie a été transformée, n'est-ce pas? Oui. Les fréquentations des personnes qui ne sont pas en Christ doivent être dans le but de gagner ces personnes au Seigneur. Et je peux vous garantir une chose. Ce n'est pas à la première rencontre que les choses vont changer. Ça peut prendre du temps, n'est-ce pas? Mais soyez ferme et gardez à l'esprit votre objectif. C'est que cette personne devienne chrétienne. Pas que vous deveniez comme cette personne. N'est-ce pas? Et si vous sentez que cette personne est déjà en train d'influencer négativement votre vie, qu'est-ce que vous faites? On met le pied sur le frein, n'est-ce pas? Et on prend du recul. On réfléchit bien, n'est-ce pas? Et on prend le temps dans la prière par rapport à ça. C'est ce que je peux donner comme élément de réponse à cette première préoccupation. La deuxième, lorsqu'on entre dans une relation de fiançailles, en dehors du sexe et tout ce qui peut constituer la débauche, qu'est-ce qui ne convient pas de faire d'autre? Je vais avouer que j'ai été très embarrassé par ces questions. Ben, c'est focalisé sur un seul aspect. Ça ne touche pas forcément un des thèmes que nous avons abordés. Mais j'imagine que ce doit être quelque chose qui bouillonne dans le cœur de la personne. Il faut oser recommencer, même dans les relations que nous avons avec des personnes. Les personnes se demandent, comment est-ce que je vais recommencer avec ces relations que j'ai avec des gens? C'est dans le sens que j'ai vu les questions de cette personne. Il y a une chose qui est très délicate. Dieu ne regarde pas seulement à l'apparence, mais regarde à la profondeur de notre cœur et à nos motivations. Dieu regarde à nos motivations. Vous pouvez ne rien faire avec la personne sur le plan physique, mais dans votre tête, il y a beaucoup de choses que vous avez déjà fait avec cette personne, n'est-ce pas? On se comprend? Oui. Maintenant, ça nous amène à nous poser la question. Sur quelle doit être notre relation avec des personnes avant le mariage? Ça doit être une relation d'amitié. Ils encouragent la personne qui a posé cette question à se rapprocher des rencontres des célibataires pour avoir davantage d'éléments de réponse, n'est-ce pas? Mais Dieu veut que nos relations en dehors du mariage soient des relations saines. Des relations dans lesquelles est-ce qu'il est glorifié? Quand toi-même tu vois cette relation-là, est-ce que tu sens que Dieu se glorifie de cette relation? La première question que tu dois te poser. Quelles sont les limites que je dois me fixer par rapport à cette relation? Si vous fréquentez trop, finira peut-être pas à arriver. Si vous retrouvez trop seul à des endroits, il y a des choses qui peuvent... Donc il faut des limites, il faut se fixer un certain nombre de principes dans vos fréquentations et dans les relations que vous avez. Sinon vous allez seulement vous trouver dans des situations très très compliquées. Vous allez venir dire au pasteur que pardon pasteur, on veut vite se marier dans 3 mois. Et on sait pourquoi, n'est-ce pas? Parce qu'on veut camoufler quelque chose, n'est-ce pas? Donc faites attention par rapport à ça. La dernière de cette série... À quel moment faut-il se mettre en relation avec une fille avec qui on envisage se marier? Si l'on peut faire abstraction de tout ce que la Bible proscrit, dès lors, est-ce que c'est mauvais que les fiançailles durent? Il y a un mot qui a la personne a sauté. Dieu le temps qu'il faut. Dieu le temps qu'il faut. Le soi d'abord est un soi que c'est Dieu qui nous oriente dans le soi. Mais maintenant, en ce qui concerne la suite et le déroulement jusqu'au mariage, quand vous devez dépendre de Dieu, c'est important. Il y a des choses que vous devez faire, mais il y a des choses aussi qui dépendent de Dieu. Et il est important de rester focalisé sur ce que Dieu veut pour nous et les orientations qu'il veut pour notre mariage. Les mariages se ressemblent. Tout le monde est dans le costume. Les mariés sont dans le marié est dans le costume. La dame est dans la robe de mariage, mais les mariages ne sont pas les mêmes. N'est-ce pas? Ils ont tous les mêmes habits, mais ce n'est pas la même chose. Dieu a une histoire qu'il veut écrire dans la vie de chaque personne et dans le mariage de chaque personne qui s'y engage. Dieu a une histoire qu'il veut écrire. Il est bon d'attendre le temps de Dieu. Les fiançailles peuvent prendre un certain nombre de temps, mais il n'est pas bon aussi que les fiançailles mettent trop long. Est-ce que je me fais comprendre? Il n'est pas bon qu'on entende qu'il y a les fiançailles de 5, 10 ans. Les fiançailles. Ça devient compliqué, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont fiancées à des personnes, mais qui en fait ne sont pas décidées de se marier. Vous pouvez attendre quelqu'un comme ça qui vous tue 5 années de votre vie et à la dernière minute, il vous dit que bon, comme tu vois là, je ne suis plus sur l'histoire. N'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai insisté sur dépendre de Dieu et sur les orientations du Seigneur. Déjà au niveau du choix et même dans la suite des fiançailles. Il est important, n'est-ce pas? De rester focalisé sur la voie de Dieu. Ça peut prendre un certain temps, mais il faut qu'on reste connecté au Seigneur qui nous donne des orientations par rapport à ça. Surtout qu'il faut encore bien définir à partir de quel moment est-ce qu'on commence à parler des fiançailles. N'est-ce pas? À partir de quel moment on commence à parler des fiançailles. Nous n'allons pas entrer dans ce détail. Rendez-vous à l'école des célibataires là-bas. Nous allons suivre peut-être s'il y a des compléments de réponse ou bien la suite des questions par le pasteur.
Merci, pasteur Raymond. Bonsoir, bien-aimés. Je vais commencer par les précédentes questions avant de m'intéresser à celle qui m'a été adressée. Fréquentation, fréquenter un ami qui n'est pas chrétien. Il est ton ami comment? La notion d'amitié, il faut d'abord connaître. Tu ne peux pas être mon ami si tu n'es pas chrétien. Tu peux être, tu es une connaissance, camarade, mais tu n'es pas mon ami. Pour être mon ami, c'est compliqué. Non, tu ne peux pas, tu n'es pas mon ami. Mon ami, c'est l'ami de Jésus. On a les mêmes motivations, on croit au même Dieu, on a un attachement très, on est très rapproché, il y a des choses qui nous on s'édifie dans un domaine bien précis. Le reste, tu es un camarade, tu es une connaissance. Le chrétien parle avec tout le monde. Il fréquente ses camarades. Il fréquente ses connaissances. Mais ce ne sont pas ses amis. C'est une connaissance. Alors, maintenant, si quelqu'un n'est pas chrétien, et toi tu l'appelles et à ton ami, peut-être lui peut t'appeler son ami, parce qu'il y a des gens parfois qui pensent, comme je marche avec toi du PMUC jusqu'à Sokada, on est à des amis. Non. Nous ne sommes pas des amis. Nous avons cheminé ensemble. On a fait un trajet ensemble. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes des amis. La Bible dit dans Amos chapitre 3, verset 3, deux personnes ne marchent pas ensemble sans être tombées d'accord du but de la marche. Pour que tu sois mon ami, il faut qu'on définisse le cadre de notre amitié et les principes de notre amitié.
Qu'est-ce qui ne convient pas de faire d'autres
quand on est fiancé, c'était ça? Qu'est-ce qui ne convient pas de faire d'autre? Je ne sais pas. Quand j'ai suivi la question, c'est comme si la personne avait vu que la chose la plus grave à commettre dans une relation de fiançailles, c'est la relation sexuelle. Si tu vis dans le péché, qui n'est même pas sexuel, c'est grave. Non, si tu n'es pas dans la vérité, ce n'est pas parce que tu n'auras pas commis la fornication avec lui et que tu es un menteur, un jongleur. On t'appelle, tu dis que je suis ici à la maison, alors que tu es avec une autre fille quelque part. Non. Donc quand on dit cela, il ne faut pas limiter ça au péché. Il y a le caractère et la nature de Dieu. Quand tu veux t'engager dans une telle relation en tant que chrétien, tu dois porter avec toi le caractère et la nature de Dieu. Dieu plein d'amour, Dieu juste, Dieu miséricordieux, Dieu compatissant, Dieu dispensateur de la joie et du pardon. Dieu qui est plein d'amour et qui ne change pas, qui est fidèle. Tu es aussi fidèle. Donc, ce n'est pas simplement l'acte sexuel. Alors, le pasteur Raymond a bien fait de le dire. Tu peux ne pas avoir de relation avec elle, intime. Mais dans ta tête, chaque soir en dormant, tu as tellement écrit des choses qui disent que tu es en train de dormir avec elle. Tu as tellement écrit des messages qui disent que non, elle est en train de dormir avec toi. Vous avez commis des relations sexuelles. Donc, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'un contact physique tout simplement. Jésus disait dans Matthieu, si quelqu'un regarde une femme dans le désir de la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec elle. Donc, il faut passer outre cela. Maintenant, combien de temps doivent durer les fiançailles? Trop de temps. Trop, c'est par rapport à quoi? Ce qui est bon. Le pasteur proposant a bien fait de dire, quand est-ce que les fiançailles là même commencent? Les fiançailles là ne commencent pas le jour où il te dit que tu veux que tu sois ma femme. Là-bas, vous êtes encore les amis. Vous êtes encore des amis. C'est le jour où tes parents vont dire là-bas que nous, on veut une personne dans cette maison-là. Et qu'on te reconnaît là-bas. C'est là où vous êtes fiancé. Quand on ne te reconnaît pas là-bas, on connaît que tu es l'ami de Carole. Tu viens souvent à la maison, tu parles avec Carole et tu pars. Tu n'es que l'ami de Carole. Le jour où tu viens, ton père vient dire que j'ai ici là, dans la maison ici, il y a une fille là. Elle s'appelle Carole. Je sais elle que je veux pour mon fils. On dit, Carole, tu es d'accord de l'histoire si tu dis oui. C'est là où les fiançailles ont commencé. Maintenant, si vous vous fréquentez trop pour rien, j'ai dit, vous vous fréquentez trop pour rien, vous allez commettre le péché. Si vous êtes même fiancé, vous vous fréquentez, j'ai dit pour rien, vous allez commettre le péché. Vous devez vous fréquenter parce qu'il y a un besoin de découvrir et de partager quelque chose. Si c'est tout simplement que non, depuis je voulais rester seulement avec toi, vous allez rester, vous allez voir ce qui va arriver par. Non, il faut avoir un but. Il faut avoir un but. Ok, je reviens maintenant sur la question qui m'a été destinée. Qu'est-ce que l'offrande du vrai jeûne? Il n'y a pas l'offrande du vrai jeûne du point de vue biblique. Ça, il faut le savoir. Il n'y a pas une offrande qu'on dit dans la Bible que c'est l'offrande du vrai jeûne. Ce que nous avons, l'Église évangélique du Cameroun, a appelé Colette. C'est une Colette qui, au terme, pendant la période du carême, permet à l'Église de poser une action de diaconie envers des personnes bien précises. Des nécessiteurs dans la paroisse, des serviteurs de Dieu, bref, des personnes qui sont dans des difficultés. Ça, c'est l'esprit de l'Église. Pour dire aux chrétiens, vivons le partage conformément à Ésaïe 58. Partage ton pain avec celui qui a faim. Si tu vois quelqu'un nu, ouvre-le. En donnant cette offrande-là, ça permet de prendre soin de quelqu'un qui a des difficultés à s'alimenter, à se couvrir. C'est pourquoi l'Église appelle ça collecte du vrai jeûne. Ce n'est pas une offrande qui est inscrite parmi les offrandes bibliques. Ça, c'est une organisation de l'Église qui amène les chrétiens à partager éternelle, au partage, à la passion pour des personnes en difficulté. Maintenant, qu'est-ce que l'offrande sacrificielle? L'offrande sacrificielle, on en a plusieurs offrandes sacrificielles dans la Bible. Et comprendre que dans chaque il y a un sacrifice. Même qu'on appelle sacrificiel, c'est ce qui va au-delà de mon... qui va au-delà de la compréhension humaine. Dieu a demandé à Abraham de lui donner son fils. Son unique. Là, c'est l'offrande sacrificielle. C'est une offrande où il y a un sacrifice à consentir énorme. C'est où on a une privation de quelque chose. Et quand nous disons offrande sacrificielle au terme d'un moment de jeûne, c'est en quelque sorte, j'ai passé le temps à recevoir la présence de Dieu. L'Éternel m'a béni. Je me suis privé de telle chose, de telle chose. J'ai fait le sacrifice de ne pas faire ceci ou cela, de ne pas dépenser ceci. Alors, en signe de reconnaissance, ou de Dieu, en m'engageant dans ce programme, j'ai fait une alliance avec Dieu. Ou bien comme Gédéon, en disant, si tu me bénis, ou comme Jabez, si tu me bénis, si tu étends mes limites, si tu accomplis telle chose dans ma vie, au terme de ce programme, je te donnerai. Ça, c'est aussi l'esprit de l'offrande. Dans une alliance, dans une relation intime avec Dieu. Parler d'offrande sacrificielle, c'est quelque chose que nous apportons au Seigneur qui a du prix à nos yeux et pour lequel nous prenons le temps de prier. De prier le Seigneur en lui disant tout ce que nous avons sur le cœur au terme d'un tel programme. Et en lui disant, en signe connaissant, voilà ce que j'apporte pour ton œuvre. C'est ça l'offrande sacrificielle. Ok, c'était juste là les questions que j'avais.
Merci. Je souhaite que nous prenions un temps dans la prière. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je vous en prie. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sang. Je suis fort, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu blanchir du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Alléluia. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur.
Bien-aimé, je voudrais qu'au terme de ce que tu sois en train de proclamer au Seigneur que tu es fort. Fort non pas de tes propres forces, mais fort parce que le Seigneur te donne sa force. Pendant le module 5, le Seigneur veut que nous demeurions fermes. Ce n'est pas avec nos forces que nous allons tenir ferme contre l'adversité, contre les résistances du monde, mais c'est avec la force du Seigneur. Confesse que tu es fort.
Sans retenue, comment le cœur peut être changé, comment la grâce est disponible, que c'est une force.
Confesse, bien-aimé, que tu as la victoire sur toutes choses, sur ce qui a triomphé toi hier. Aujourd'hui, tu es vainqueur de ces choses à cause du nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Dis au Seigneur que tu es fort. Fort pour pouvoir surmonter les forces. Les forces contraires. Les forces qui s'opposent. De recommencer. Christ a pris sur la croix toutes nos faiblesses. Et il nous a communiqué la force qui vient de lui. Dis, Seigneur, je m'approprie cette force. Dis au Seigneur ton engagement, ta détermination, aller au du processus du recommencement. Dis au Seigneur que malgré les géants qui peuvent se dresser devant toi, tu remportes la victoire sur eux. Dis encore au Seigneur que tu veux compter sur lui. Ce n'est pas avec force que tu avanceras. Seigneur, je veux compter sur toi. Dis au Seigneur que tu veux demeurer à ses pieds pour tirer le meilleur profit de sa présence. Dis encore au Seigneur ce soir, Seigneur, je veux devenir ton intime. Seigneur, comme tu l'as dit autrefois, Abraham, accomplirai-je une telle chose sans en parler avec mon serviteur Abraham, mon ami Abraham, au sujet de Sodome et Gomorre. Dieu Seigneur, que tu veux devenir son ami, au point où Dieu n'accomplisse pas quelque chose sans t'en parler avant. Il a dit dans Jérémie 33, verset 3, Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Dieu veut révéler des choses cachées. Dis-lui, Seigneur, donne-moi d'être cet intime à qui tu révèles des choses cachées. Dieu, Seigneur, de t'aider à sortir de la superficialité dans ta relation avec lui et d'aller en profondeur maintenant avec lui. Dis, Seigneur, je veux aller en profondeur avec toi dans ma relation, dans mon intimité avec toi. Seigneur, je ne veux plus être quelqu'un de superficiel, quelqu'un qui peut être balancé à tout vent. Mais Seigneur, je veux m'enraciner en toi. Je veux puiser toute ma force en toi. Jésus était un intime de Dieu. Il passait du temps dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi tout ce qu'il faisait réussissait. Dieu veut également que tout ce que tu entreprends réussisse. Parce qu'il sait que si tu es en lui, tout ce que tu entreprendras sera des choses qui cadrent avec sa volonté. Et parce que ce sera... Il t'aidera dans l'accomplissement de ces choses. Dis, Seigneur, je veux ressembler à mon grand frère Jésus. Dans sa relation d'intimité avec toi. Dis, Seigneur, s'il te plaît, descends de ce qui était comme lourdeur, qui m'empêchait véritablement de chercher ta face, de te connaître tel que tu es. Oh Seigneur, s'il te plaît, décharge-moi ce soir de ces fardeaux, de ces pesanteurs, de la paresse. Décharge-moi, Seigneur, de l'incrédulité. Décharge-moi, Seigneur, du doute et de la peur, de ce que les autres vont penser de moi. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Devant le Seigneur, que cette situation qu'il t'a montrée et pour laquelle tu dois oser recommencer, avec l'aide de Dieu, les choses iront mieux. Commence à prier pour ta famille. Peut-être qu'elle a connu beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de déchirures dans ta famille, dans ton foyer. Seigneur, je veux oser recommencer et colmater les brèches qu'il y avait eu jusqu'à présent. Parce que je sais qu'avec toi, l'unité et l'harmonie est possible. Dis, Seigneur, je veux recommencer un certain nombre de choses dans l'éducation de mes enfants. Parce qu'il y a des choses que j'ai ratées, Seigneur. Mais tu m'as dit que tu voudrais que nous osions recommencer. Seigneur, donne-moi le tact, la stratégie nécessaire pour rebâtir une relation sainte avec mes enfants. Une relation équilibrée. Une relation Père éternel d'harmonie avec ses enfants. Peut-être que le Seigneur a pointé du doigt ta vie professionnelle. Il voulait que tu sois un modèle. Il t'a dit un certain nombre de choses qu'il attend de toi dans ta relation professionnelle. Dis-lui, Seigneur, je veux oser recommencer. Peu m'importe le regard des uns et des autres. Mais Seigneur, je veux oser recommencer. Avec l'intégrité. Avec la justice. Avec la fidélité. Avec l'honnêteté, Seigneur. Je veux recommencer, Seigneur. Dis au Seigneur que tu comptes sur sa force pour tenir ferme, pour demeurer fidèle jusqu'au bout. Dis-lui merci parce que tu peux compter sur sa force dans tes moments de faiblesse. Dis-lui merci parce que tu peux compter sur la présence du Saint-Esprit pour te fortifier, pour t'encourager, pour te soutenir. Dis-lui merci parce que sa présence ne faillira jamais. Seigneur, tu désires que nous tenions ferme
Et à l'issue, Seigneur, de ce module, je voudrais que nous regardions davantage à toi. Parce que tenir ferme, ce n'est pas avec nos forces. Tenir ferme, Seigneur, dans le processus du recommencement, c'est en nous appuyant, Seigneur, sur ton bras. Ton bras, Seigneur, notre Dieu, qui nous rend forts et qui nous sécurise. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Roi, nous voulons oser. Nous voulons faire des choses avec toi. Nous voulons, Seigneur, repartir sur de nouvelles bases. Nous avons besoin, Seigneur, notre Dieu, de ta présence. S'il te plaît, Seigneur, fortifie-nous. Merci, Seigneur, de rassurer quelqu'un ici qui voulait oser recommencer, mais qui avait comme des craintes dans son cœur, qui avait comme des doutes dans son cœur. Rassure, Seigneur, cette personne et donne-lui la force, Père éternel, nécessaire pour faire ce que tu attends d'elle. Merci, Seigneur, de nous bâtir dans ta grâce. Merci, Seigneur, de nous soutenir. Merci pour ton amour, Seigneur, que tu manifestes dans nos vies chaque jour. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons compter sur toi. Merci, Seigneur, notre Dieu, notre Roi, pour tout ce que tu accomplis dans nos vies. Merci, Seigneur, Père éternel, notre Dieu, pour les portes qui s'ouvrent devant nous. Merci, Seigneur. Merci et merci encore pour tout. Au nom de Jésus. Amen.
Connu de tous, ignoré de tous, tel qu'on peut l'être dans la vie. Un visage de plus, un sourire de moins, tel qu'on peut voir aujourd'hui. Un monde de douleur, un lit de terreur, couché sur un coussin de peur. J'avais cherché le jour, appelé au